C'est un grand désavantage de ne pas recevoir une bonne éducation dès son jeune âge. On ressent un cuisant embarras d'ignorer les choses que savent les autres.
L'éducation avant notre instruction publique. Premier épisode, l'Antiquité.
Avec le développement de la vie politique, la naissance d'écoles de médecine, de sciences et de philosophie, l'éducation prit d'abord dans les villes grecques un sens nouveau. Il s'agissait de former des citoyens maîtres de leur langage et armés pour la lutte politique. Avant Socrate, ce furent les sophistes qui enseignèrent à des fins utilitaires l'art de raisonner et celui d'argumenter, la dialectique et la rhétorique. L'une et l'autre devaient se fonder sur des connaissances variées. La culture générale devenait un élément essentiel de l'éducation.
Kai eskopten, odelukos eipen, consumé loidoreis al otopos.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ce générique a valeur de test de culture générale pour notre invité Bernard Legras. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Auteur chez Colin d'une grande histoire de l'éducation en Grèce et à Rome, professeur d'histoire grecque à la Sorbonne. Nous, on n'a pas réussi à déchiffrer là, ces mots grecs.
Et oui, alors ces mots grecs, c'est une récitation visiblement d'écolier qui répète une leçon apprise en parlant le grec qui n'a jamais existé, le grec érasmien. Donc au lieu de dire « autolikos eipen », il aurait dit « aftolikos eipen hein. ». Donc il nous dit qu'il admire cette éducation et qu'il faut en tenir compte, mais que aujourd'hui, en Grèce, la Grèce d'aujourd'hui, le grec ne se prononce plus de la même manière. Et nous voyons bien la marque de la Renaissance, l'esprit d'Érasme, qui a déformé la prononciation du grec ancien, qui devrait se prononcer dans une continuité multimillénaire, comme le grec d'aujourd'hui, qui était déjà parlé ainsi à Alexandrie.
Est-ce que je prononce bien Paideia ?
Paideia.
Paides, c'est les enfants ?
Paides, ce sont les enfants.
Et Paideia ?
Paideia est un mot en fait polysémique qui a plusieurs sens, qui signifie bien entendu l'éducation, c'est le sens pour lequel il est le plus connu, mais qui signifie également la culture, c'est éducation et culture, et qui englobe en fait tous les aspects de la vie commune des Grecs.
Donc ça va être le mot clé pour parler de l'éducation chez les Grecs, le mot va se retrouver chez les Romains, dont la première langue à l'école était le grec, non ?
Les Romains de culture, les Romains de l'élite, les Romains de la nobilitas, sont tous des hellénophones. Ils savent tous le grec. Ils ont appris le grec dans les écoles à Rome et ensuite, bon, voyagent en Grèce propre, en Asie mineure pour se perfectionner à la rhétorique et à la sophistique grecque.
Et pour eux, Homère, eh ben, beaucoup d'importance. Et l'éducation grecque, dites-vous, Bernard Legras, a commencé avec Homère qui décrivait dans la société qu'il chantait des classes d'âge, des générations.
Alors effectivement, quand on parle de la culture grecque, on part toujours d'Homère. Et les jeunes Grecs, les petits Grecs, apprenaient le grec dans Homère. Les écoles grecques, depuis que les écoles existent en Grèce ancienne, jusqu'à la fin de l'Antiquité, eh bien le matériel scolaire, c'est la lecture d'Homère, c'est l'écriture d'Homère. Et donc les Grecs, jusqu'à la fin de l'Antiquité et au-delà, à l'époque byzantine, connaissent Homère, en fait, quasiment par cœur.
L'écriture d'Homère, dites-vous, mais enfin, c'est de l'oralité, l'enseignement en Grèce. Oralité avec un O, et puis, disait le regretté Marcel d'Étienne, oralité A-U-R-A, l'oreille.
Alors, effectivement, Marcel d'Étienne a eu un coup de génie, hein, au niveau de la prononciation. Hein, oralité peut s'écrire également A-U-R-I, aoris, en latin, l'oreille. Et l'oralité, c'est le début de la naissance de la culture grecque, puisqu'il est clair qu'Homère a d'abord été transmis sur un mode purement oral, est une poésie orale qui a ensuite été mise par écrit à une date ultérieure qu'on ne connaît pas exactement, peut-être le 7e, le 6e siècle. Mais l'oralité a toujours joué un rôle très important dans la culture grecque. Il ne faut jamais oublier voyez que les lettrés, les pépaïdoménoï, ceux qui ont la païdéia, ceux qui ont reçu cette éducation, sont une infime minorité. Et l'essentiel de la culture se transmet oralement.
De bouche à oreille et de manière laconique à Sparte. Laconique.
Alors effectivement, nous voilà à Sparte, dont le bassin territorial le plus important est la vallée de l'Eurotas, c'est-à-dire la Laconie. Et effectivement, quand on emploie ce terme laconique, on veut dire que l'expression est courte, qu'elle est courte, mais qu'elle est bien faite, elle est parfaitement compréhensible, et que on se réfère là à l'esprit spartiate qui accorde une place encore plus grande à l'oralité qu'à Athènes, même si les Spartiates savaient lire et écrire.
Les auditeurs de France Inter aimeraient que les journalistes soient laconiques. Alors une question brève, Bernard Legras, c'est un enseignement public, c'est ça qui fait l'exceptionnalité de Sparte?
Alors Sparte est le seul État grec de l'époque achaïque et classique, à notre connaissance, qui établit un système d'éducation d'État. C'est-à-dire où la police, où la cité-État met en place des institutions éducatives, les finance d'une certaine manière et surtout les surveille avec un objectif pédagogique et un objectif politique, à savoir l'encadrement des citoyens et la formation à la fois à certaines disciplines de l'esprit, parce que les Spartiates sont tous sauf des crétins ou des imbéciles, car certains historiens l'ont écrit. Ce sont des gens cultivés, mais très doués pour l'art militaire. Et parfois, on a comparé Sparte à une immense caserne constituée d'illettrés. Non, ce n'est pas cela. Ce sont de très bons combattants, mais ils ont également fait leurs lettres grecques.
Dites-moi, ce point de vue, c'est peut-être celui que vous dénoncez, celui de Henri-René Maroux, qui avait publié avant vous une grande histoire de l'éducation dans l'Antiquité, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et Maroux, qui était un résistant, avait été très marqué par les phénomènes totalitaires des années 30. Avant de l'entendre, le péplum américain d'il y a une dizaine d'années, qui lui marque de la fascination pour l'efficacité militaire de Sparte, j'ai nommé 300.
À l'âge de 7 ans, comme le veut la coutume à Sparte, le garçon fut enlevé à sa mère et plongé dans un monde de violence. On lui a appris à ne jamais reculer, à ne jamais se rendre. Et que mourir sur le champ de bataille, au service de Sparte, était la plus grande gloire que l'on puisse atteindre.
C'est finalement une morale totalitaire qui est enseignée à Sparte. Elle se durcit encore avec le déclin de la cité.
Au cours des années de la résistance, nos jeunes étudiants était très soucieux de savoir ce que nous, leurs professeurs, pensions d'un dénommé Adolf Hitler et d'un système qui s'appelait le nazisme. Il était très facile de se mettre en colère à cette époque en évoquant l'admiration vraiment absurde qu'une certaine tradition, hélas, qui n'est pas seulement allemande, car j'ai eu l'occasion de citer du Barès, une tradition d'admiration pour ce système spartiate. En réalité, Sparte m'intéressait parce que c'était une manière de faire comprendre à la jeunesse quel était le danger du totalitarisme moderne.
La voix de Maroux, reconnaissable à son asthme chronique, il avait eu l'expérience des mouvements uniques de jeunesse qui retiraient à la famille sa responsabilité dans l'éducation. Il n'y avait pas d'institution familiale, une part de l'éducation qui soit assurée par l'institution familiale à Sparte?
Alors l'une des réalités de Sparte, c'est qu'effectivement, à 7 ans, le jeune garçon est vraiment retiré à sa famille. Avant l'éducation, elle est faite, comme dans les autres États grecs, par les femmes. Hein. La mère, les tantes, éventuellement les servantes, qui sont bien présentes. Mais à 7 ans, là, il y a une coupure. L'enfant est encaserné et va donc vivre avec ses camarades de son âge. Coupé de la vie familiale et soumis à des magistrats qui vont lui donner une éducation à la dure, lui apprendre la frugalité et lui apprendre déjà à se battre. Mais apprendre à se battre à la fois contre les adversaires de Sparte, mais également pour dégager une élite à l'intérieur des Spartiates, dégager les meilleurs.
Et la cité athénienne, elle confiait au privé. le soin de l'éducation, même si la cité s'intéressait à ce qui pouvait se passer dans l'éducation.
Alors la grande différence, suivant la vision traditionnelle, c'est en effet qu'à Sparte, on a une éducation d'État, une éducation collective, très, très dure, très âpre, et à Athènes, en revanche, une éducation qui est confiée à des maîtres privés, payés par les parents, dans un cadre qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, et où la part du militaire est moindre, avec une éducation intellectuelle, musicale, plus grande. Alors ça c'est la vision traditionnelle. Mais aujourd'hui les historiens essaient de lisser cet antagonisme très profond entre Athènes et Sparte, qui est une construction qui date de l'Antiquité. Ce sont les Grecs de l'Antiquité, les intellectuels, les historiens, les moralistes, Xénophon, plus tard qu'au premier chef, qui ont voulu construire deux modèles antagonistes totalement opposés. Et les modernes, à partir de la Renaissance, ont épousé ce modèle avec certains pays qui se sont mis plutôt dans le modèle spartiate, l'exemple de l'Allemagne du 19e siècle, qui a eu la continuité terrible avec les nazis, qui sont les grands admirateurs de Sparte. Et puis la France, en particulier la France républicaine, la France de Jules Ferry, qui, elle, va voir dans Athènes un modèle plus libéral, plus ouvert sur les choses de l'esprit et revendiquer Athènes.
Henri Maroux, en 1948, riche donc de cette expérience de la Deuxième Guerre mondiale, disait... Athènes, c'est la généralisation de la démocratisation, et ça a à voir avec Jules Ferry.
Alors, c'est une thèse qui est aujourd'hui mise en cause. Effectivement, Henri-René Maroux, et il avait parfaitement raison, essayait de trouver dans l'Antiquité grecque en particulier, des modèles pour les sociétés modernes. Cela est une continuité importante. Il faut que les historiens de l'Antiquité montrent combien leur science, leur domaine de compétences est utile aux sociétés présentes. Et Henri-René Maroux était tout à fait dans son rôle. Mais dans le cas de figure qui nous intéresse ici, il va trop loin. Il va trop loin car on a beaucoup dit, effectivement, que la démocratisation allait avec l'alphabétisation, l'extension de la culture et, effectivement, au 5e siècle, on a à la fois Périclès, le siècle de Périclès, et puis une alphabétisation, une montée de la qualité de l'éducation athénienne. Mais on oublie que les tyrans, en particulier Pisistrate et ses fils, sont cultivés et qu'ils ont été les premiers à développer certains outils culturels de la société athénienne, par exemple la mise par écrit d'Homère.
Dites-moi quelques questions simples comme aimait les poser à un examen Henri Maroux. Je ne vais pas imiter son asthme, mais Achille savait-il lire ?
Achille ? Certainement pas.
Ah bon ? Mais il avait deux précepteurs.
Il avait deux précepteurs, mais que lui ont-ils appris exactement ? Ils lui ont appris la musique, ils lui ont appris le sport, mais Achille, qui apparaît au moment de la société homérique, on est dans une société où l'écriture n'est pas encore totalement présente. L'écriture n'apparaît pas dans l'Iliade, elle apparaît un peu dans l'Odyssée. Donc, Achille savait-il écrire ? Ma réponse serait plutôt négative.
Et puis, comme les Spartiates, son idéal, au fond, c'était de mourir au combat pour que sa mémoire demeure. Et d'ailleurs... Comment luttait-il ? Ça, c'est une question de Maroux. Comment luttait-il ? Comment était-il quand il combattait, demandait Maroux à l'examen de licence ?
Ah bah les Spartiates sont nus.
Ah bah voilà, vous avez la bonne réponse. Vous avez le diplôme, Bernard Legras. Ouais. Ils sont nus. Et qu'est-ce que vous pensez du rapport, nu ou pas nu, qu'entretiennent le maître et l'élève ? Qu'est-ce qu'il faut penser de la pédérastie dans l'enseignement en Grèce ?
Ah bah la pédérastie, c'est le mot aujourd'hui n'est plus compris du tout. Hein, il faut faire un petit cours.
Allez-y.
Pour rappeler que la pédérastie telle qu'elle est conçue par les Grecs et l'historienne Eva Cantarella l'a parfaitement montré. Il s'agit d'un code moral et éducatif qui est parfaitement accepté par la société. Dans un système traditionnel de dons et de contre-dons. un homme plus âgé, mais qui ne doit théoriquement pas avoir plus de 40 ans, donc c'est pas un vieillard, va apprendre à un plus jeune, justement, des éléments d'éducation, des éléments de païdéia, des éléments de savoir-vivre. Et en échange, le jeune, qui doit avoir entre 12 et 18 ans, donc rien avant 12 ans, rien après 18 ans, la limite étant la naissance du système pileux, donc ça peut être 16 ou 17 ou 18 ans pour certains adolescents. Là, il peut y avoir une relation physique, d'amour physique, pas uniquement de tendresse. Alors cet idéal pédérastique, d'homo-érotisme, dit-on également, est parfaitement accepté par les Grecs jusqu'à l'époque hellénistique. On voit très bien qu'à l'époque hellénistique, en particulier grâce au papyrus grec, qui est ma spécialité, au IIe siècle avant notre ère, on commence à avoir une certaine critique de ce type de relation entre un éraste, l'amant, et les romaines, l'aimé, l'adolescent. Et à l'époque romaine, alors là on a des textes, où on passe peu à peu à une condamnation morale de ce type de relation.
Avant qu'on en vienne à l'extension du système grec modifié et lissé par l'époque hellénistique, après la mort d'Alexandre, et à l'époque romaine, encore une question sur l'époque plus ancienne. Et l'éducation des filles, Bernard Legras ?
Alors l'éducation des filles est beaucoup moins bien documentée que l'éducation des garçons, ce qui est tout à fait normal, puisque d'une manière globale, nos connaissances sur les femmes sont moins importantes que celles sur les hommes pour toute l'histoire grecque et même toute l'histoire romaine. Alors l'éducation des filles existait, mais de manière plus ou moins forte suivant les époques et suivant l'élu. Alors à Sparte, les filles reçoivent une éducation, semble-t-il, sur le même modèle que celui des garçons, donc une éducation qui est athlétique, donc physique, donc également course et entraînement dans la nudité, et également une éducation qui semble intellectuelle. Elles ont également accès à la lecture et à l'écriture.
Et l'une des thèses ou des hypothèses de votre livre sur l'éducation en Grèce, je rappelle qu'il est paru chez Armand Collin, c'est que à l'époque archaïque, la Grèce avait peut-être davantage développé l'éducation féminine, en témoigne l'expérience de Sappho, la grande poétesse de Lesbos, qui avait constitué des associations privées d'enseignement, et puis aussi des associations chorales. Alors le souvenir de Sappho, on le retrouve très souvent dans la musique. Ici, c'est une œuvre de Pekka Salonen, le compositeur et chef d'orchestre finlandais, avec flûte, cor anglais, clarinette, basson, trompette, violon, viol, violoncelle, piano, harpe et percussion. Autour de Sappho, l'orchestre était plus limité, non ?
Ah oui, certainement, oui.
Lyre.
La lyre et la cithare. Et l'olos.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Notre série cette semaine est consacrée à l'histoire de l'éducation et aujourd'hui le premier épisode avec Bernard Legras nous fait passer de la Grèce à Rome via l'époque hellénistique. L'époque hellénistique. Rappelez Bernard Legras.
Alors l'époque hellénistique, c'est l'époque qui s'ouvre avec la conquête d'Alexandre, bon formellement à la mort d'Alexandre, donc en 323, la mort à Babylone, et qui nous amène jusqu'à la conquête de Rome. Hein, la conquête des royaumes hellénistiques se termine avec la conquête de l'Égypte hellénistique, la mort de Cléopâtre en 30 avant notre ère.
Bientôt, en 2020, un livre de Bernard Legras sur Cléopâtre 7. Et la défaite d'Axiome. Le monde hellénistique généralise les gymnases, c'est-à-dire le lieu d'enseignement à la fois public et privé des Grecs.
Alors les gymnases naissent à l'époque classique, Platon, Aristote créent leur école, l'académie et le lycée.
C'est une école privée dans le gymnase.
Dans
public.
Un gymnase. Donc les gymnases existent déjà dans l'Athènes, dans la Sparte classique. Mais c'est à l'époque hellénistique, avec l'extension de l'hellénisme à l'échelle du bassin méditerranéen, que les gymnases vont apparaître partout. Partout où l'hellénisme s'implante, partout où les Grecs colonisent, ils créent des gymnases. Alors les gymnases, à l'époque hellénistique, c'est une institution dans un bâtiment, donc nous avons des traces archéologiques, des bâtiments extraordinaires. L'un des plus beaux gymnases hellénistiques est à Cyrène, aujourd'hui en Libye. J'espère qu'on pourra bientôt de nouveau visiter ce gymnase absolument étonnant. Mais les gymnases vont jusqu'en Afghanistan, jusqu'à Hranoum. On a trouvé là des bâtiments qui sont conformes architecturalement à ce qu'on trouve en Grèce propre, en Asie mineure. Alors le gymnase, c'est à la fois un élément d'entraînement physique, mais c'est aussi un lieu d'éducation intellectuelle. Et toute la formation qu'on peut dire secondaire et supérieure, c'est-à-dire au-delà des apprentissages primaires, apprendre à lire, à écrire et à compter, se passait dans les gymnases.
Oui, ça, vous décrivez ce qui se passe quand les Grecs colonisent, avec des guillemets. Mais quand les Grecs sont colonisés, entre guillemets, quand Athènes, apparemment, n'est plus qu'une ville sans importance politique. Il n'empêche que des maîtres itinérants de Grèce circulent dans l'espace romain. Nous sommes ici dans la série télé Rome.
Bravo, bravo!
Titus Pullo enseigne bien.
Pour être un homme, les jeux de glaive ne suffisent pas.
Aristarchus d'Athènes est à Rome. Marcus, on raconte qu'il écrit des hymnes en prose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme dont je n'ai jamais entendu parler. Encore une invention de ces Grecs, ils inventent toujours quelque chose. Pourquoi sont-ils si intelligents?
S'ils le sont autant que tu le penses, pourquoi est-ce la Grèce qui est une province romaine et pas l'inverse?
Ce sont deux bonnes questions.
Oui, ce sont des questions fondamentales, parce qu'effectivement, militairement, les Romains ont vaincu les Grecs, ont vaincu les armées hellénistiques les unes après les autres, mais culturellement, les vainqueurs, ce sont les Grecs, qui ont à la fois diffusé leur langue dans l'ensemble de l'Empire romain. En Gaule, on a retrouvé beaucoup d'inscriptions en grec, parce que le grec était, à côté du latin, la langue de culture fondamentale. L'éducation des Romains d'élite se fait aussi en grec beaucoup donc vont dans les villes grecques, dont Athènes, dont Alexandrie, pour se perfectionner.
Mais qui sont ensuite ces maîtres qui deviennent itinérants une fois qu'ils ont été perfectionnés en Grèce, à Alexandrie très important et à Athènes maintenus, ils vendent leurs services?
Alors ce sont des professeurs qui gagnent leur vie avec cet enseignement donc où ils voyagent. Mais c'est une grande tradition chez les maîtres grecs de se déplacer. Les sophistes à Athènes au 5e siècle étaient déjà des maîtres itinérants qui venaient d'autres cités qu'Athènes. Ils venaient à Athènes parce qu'ils avaient des élèves qui les payaient bien et parce qu'ils trouvaient du prestige à avoir des élèves qui allaient plus tard avoir des places prestigieuses dans l'État athénien.
Mais on reproche à ces maîtres, descendants des sophistes, spécialistes de la rhétorique et du déploiement de l'argumentation, de se vendre un peu au plus offrant et de ne pas défendre des systèmes de valeurs fondés sur la vérité. C'était d'ailleurs tout le débat entre les sophistes et Socrate bien avant.
Les sophistes en étaient parfaitement conscients. Ils l'ont écrit quand on lit Protagoras sous la plume de Platon, que disait vraiment Protagoras. C'est Platon qui nous restitue ses propos. Il défendait pleinement ce mode d'enseignement, à savoir qu'il se faisait payer, et il se faisait payer cher, mais à condition que l'élève soit content. Il y avait déjà une évaluation, mot très moderne, des professeurs par leur élève, et Protagoras était prêt à abandonner une partie de son salaire, voilà, la totalité de son salaire, si l'élève n'était pas content.
Mais attendez, il y avait quand même plusieurs niveaux. Là, ce qu'on décrit, c'est le niveau d'enseignement le plus élevé. Pendant la période hellénistique et romaine, sur une très longue continuité, il y a trois niveaux, grosso modo?
C'est cela, il y a trois niveaux. C'est Henri Néremarou qui l'a bien mis en place. Il a utilisé des termes qui étaient un petit peu anachroniques, mais parfaitement compréhensibles. l'école primaire, l'école secondaire et l'école supérieure. Et il montre bien que le niveau de, comment dire, de respect social vis-à-vis des professeurs n'était pas le même au niveau primaire, secondaire et au niveau supérieur.
Le professeur du premier degré était souvent mal considéré.
Il était moins bien payé en tout cas, c'est un problème récurrent dans l'éducation.
Et chahuté parfois.
Et parfois ils étaient chahutés et sévèrement chahutés.
Dites-moi, Henri-Irénée Maroux, vous le citez, alors j'en profite pour le faire entendre une dernière fois. Il raconte comment l'Antiquité tardive, ce qu'on n'appelle plus le déclin de l'Empire romain, était persuadé, ayant atteint un certain niveau, que celui-ci allait se maintenir dans les siècles des siècles.
À ma grande stupeur, j'ai constaté que le système d'éducation mis au point, disons, au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, enfin au temps de Platon et d'Isocrate, est resté pratiquement inchangé pendant un millénaire, car je crois que cette éducation antique a continué à Byzance pendant tout le premier humanisme byzantin. Nous aurions donc une courbe qui croîtrait et qui après se stabiliserait de façon horizontale. Et ça, je crois qu'il y a eu des anciens pour en avoir pleinement conscience. Les grands esprits de la grande génération romaine, du temps de Cicéron et Virgile, avaient l'impression que l'humanité avait commencé par être barbare et sauvage. Elle s'était civilisée. Mais puisque maintenant elle l'était civilisée, les causes de destruction avaient été supprimées, qu'il n'y avait pas de raison pour que ça ne dure pas indéfiniment. Voilà la surprise que m'avait ménagée.
Il y a là quelque chose qui n'a pas d'autre parallèle qu'en Chine, je pense. Enfin, une stabilité qui a duré effectivement des siècles et des siècles.
C'est un extrait des Lundis de l'Histoire et on entend, en dernier intervenant, Pierre Vidal-Naquet. C'est toujours très dangereux, vous le dites souvent, Bernard Legras, les comparatismes en matière d'histoire de l'éducation. Mais là, la comparaison vaut entre la continuité gréco-romaine sur un millénaire et la continuité chinoise.
La continuité est parfaitement pertinente et effectivement, les Chinois sont fiers aujourd'hui de parler leur langue, d'avoir leur système d'éducation qui remonte à plusieurs millénaires. Le président Xi Jinping y a fait allusion il n'y a pas très longtemps. Eh bien, pour les Grecs, c'est la même chose. Puisque le grec est parlé en Grèce depuis le 16e siècle avant notre ère. Et ce système d'éducation, effectivement, qui naît à l'époque archaïque, qui, avec Homère, se continue à travers l'Empire romain, à travers l'Empire byzantin. Et donc, on a une continuité exceptionnelle qui, en fait, continue à irriguer la pensée de ceux qui pensent l'éducation pour les temps modernes.
La rupture vient en partie du christianisme. Je voudrais que vous racontiez une histoire, pour finir très brièvement, celle du martyr de Cassien, qui était un professeur sévère et qui était un chrétien. Et ses élèves ont profité de son statut minoritaire pour se venger.
Oui, c'est une histoire terrible, parce que c'est l'histoire d'un règlement de compte des élèves qui se sont sentis persécutés, mal aimés par leur maître. Élèves païens ont argué du fait que Cassien était devenu chrétien pour lui affliger un martyr en le tapant avec leur tablette à écrire. Le matériel d'écriture, ce sont des tablettes de bois enduites de cire. Ils ont cogné sur leur maître avec les tablettes. Ils ont pris leur stylo à écrire. Et ils ont déchiré le visage du maître. Ils lui ont infligé un supplice abominable.
C'est plus que du chahut. Merci à vous, Bernard Legras. Votre histoire de l'éducation en Grèce aux éditions Armand Collin, Juliette Gou, Frédéric Martin, Franck Olivard et Lynn Canegulesco.